Dans un recueil de poèmes qui s'appelle « Aujourd'hui », je tombe sur ces mots qui sonnent, qui résonnent. Je joue à l'incroyance. Tout le monde sait que je crois. Je crois que j'écris aujourd'hui. Je crois que la parole est puissante. Je crois que chanter le monde le produit. Je crois au temps profond de l'art. Ils ont balayé l'art à cette conférence. Je crois que mon aujourd'hui parle de l'impossible, donc de l'inespéré qu'espèrent les incroyants. Je crois qu'il ne faut croire en rien. J'y crois très fort. Je crois au doute. Ah, je doute d'aujourd'hui. Plus je l'en sers, plus j'en doute, plus je l'appelle désespérément. Sapho, aujourd'hui, journal au bord.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est Monde, poétesse, chanteuse, musicienne et Jerry Punk, pionnière de la world music. Elle évolue depuis la fin des années 70 au confluent des cultures, des influences, des mots. Son nouvel album Jam, Jalousie, Amour, Mort est sorti en décembre dernier. Elle y chante comme jamais le deuil, la pulsion de vie, la liberté. Bonjour Sapho.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup.
Alors, il faut que je vous dise quand même, Augustin.
Dis-moi.
Que je suis fan. Je suis fan de vous.
Bah alors.
Mais alors attendez. Et en plus, je me suis dit que vous étiez le sosie d'une de mes idoles, à savoir Jude Law. Et j'ai pensé que j'allais vous déstabiliser avec
pas
ça.
Du
mais
tout.
Non, on m'a dit que vous aviez photographié avec lui.
Non, c'est surtout qu'on m'appelle Jude Loin. C'est-à-dire vraiment de très très loin.
Non,
mais ça, c'est
non.
Une toute autre histoire.
Alors j'étais désespérée. Je pensais vous voyez.
Bah écoutez, il vaut mieux que vous m'appeliez Jude Law que Danny DeVito. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous chanter le monde, Sapho?
Ça veut dire juste que il se trouve que je suis née au Maroc, un pays pas si lointain, mais bon, et on parle français, mais où il y a toutes sortes de langues qui arrivent dès l'enfance. Il y a l'arabe marocain, l'arabe classique, les anglais, les touristes, l'Espagne du nord du Maroc, le berbère, l'anglais par les radios, etc., etc. Toutes sortes de langues. Et aussi que je suis si attachée à cette idée très française de l'universalisme, c'est-à-dire de qu'on est des humains et que ces humains ont des sorts différents, ils ont des langues différentes, etc. Mais il y a ce fond commun. Et je suis attachée à ce fond commun. J'aime rencontrer la différence et j'aime trouver la chose qui nous lie.
Oui, ce qu'elle dit, cette façon de croiser, d'entremêler, de fusionner, de métisser partout dans vos mots, c'est peut-être que le monde n'est jamais figé, qu'il ne cesse d'advenir, qu'il est constamment en mouvement. Rendre compte de ce mouvement perpétuel, ça passe par quoi, très concrètement, très techniquement dans votre musique?
Alors par exemple, ne serait-ce que quand on fait un concert, par exemple, j'adore ne pas savoir ce qui va se passer, même si on a bien sûr un cadre, une chanson, etc. Cette chose de se jeter, c'est pas très anglo-saxon, c'est latin, c'est du sud. Ne pas savoir ce qui va sortir et se laisser surprendre. Alors parfois on chute un peu, mais lorsque ça fonctionne, lorsque ça se passe, ça peut être gracieux parce qu'on n'avait pas su.
La multiplicité des croisements, Sapho, à quel moment avez-vous eu l'idée d'instiller des sons et des mots arabes dans vos chansons? Vous qui avez fait vos débuts sur une scène rock très inspirée par la culture anglo-saxonne, justement.
Alors, au début, je me suis dit, je vais faire du rock'n'roll parce qu'aucune fille ne faisait du rock'n'roll, ça se faisait pas. Et on m'avait dit d'ailleurs, il y a un journaliste très, très avisé, genre Paris Match, m'avait dit, oh, de toute façon, cette mode des femmes qui font du rock va passer.
Je lui ai dit, Internet, ça...
Je lui ai dit, monsieur, c'est
Internet,
inéluctable.
Ça marchera pas.
Je lui ai dit, monsieur, cette chose est inéluctable. Bon, ça l'avait consterné. Mais voilà, et donc, ça avait commencé comme ça. J'étais un peu rebelle, donc j'avais commencé. Et puis, je me suis dit, mais quand même, faire du rock, c'est imiter les anglo-saxons. Je suis allée à New York une année, je me suis dit, on fera jamais aussi bien qu'eux, il faut faire quelque chose à soi. Et j'ai convoqué, donc, dans les territoires de ma mémoire, toutes sortes de gens.
Et comment ça a été perçu, cette proposition musicale, hein, de métissage musical?
Alors au début, on m'a regardé d'un œil torve, surtout à... chez Patera Corny, chez pas Marconi. on m'a regardé, je me souviens de la pauvre attachée de presse qui était très inquiète. Et puis ensuite, certains m'ont dit, même dans des radios, on me disait, vous savez, nous, on n'est pas racistes, mais les gens sont racistes, alors on ne peut pas passer des trucs en arabe comme ça. Il n'y avait rien, il n'y avait pas le rat, il n'y avait rien. Donc, et donc, on m'a regardé d'un air de dire, bon, ça... Et en fait, ce qui m'a conforté, c'est quand j'allais à l'étranger, à Amsterdam pas à Londres d'ailleurs, parce que ça n'a pas du tout commencé par là, mais à Amsterdam, Europe du Nord, etc., les gens étaient intéressés par cette chose-là. Par le métissage de la musique. Je me suis dit, bon, je ne suis pas schizophrène, tout va bien.
Mais aujourd'hui, Sapho, dans quel monde est-ce que vous avez l'impression de vivre? Un monde qui tend à vouloir figer, justement, les identités? Un monde de repli? Mais ou là, alors un monde qui connaît ses ouvertures?
Ben, c'est très étrange, parce que, à la fois, je crois que les gens se sont familiarisés avec l'idée qu'on peut convoquer des musiques de toutes sortes, etc., dans la même musique ou pas. D'ailleurs, parce qu'il y a des gens, des puristes, qui veulent rester dans leur intégrité... territorial, mais il y a en ce moment, et comme vous le savez, on ne peut pas l'ignorer, une certaine montée des identitarismes, des particularismes, c'est très étrange, parce que des extrêmes gauches vont se rejoindre avec des extrêmes droites, il va y avoir une espèce de choses comme ça, de montée d'un désir de pureté.
Comment vous résistez-vous à ce désir de pureté?
Ben, moi, je continue. Je continue à faire ce que je fais.
C'est-à-dire de la poésie, Sapho.
Par exemple, de la poésie.
La parole des poètes que vous avez si souvent reprise ou mise en musique, je pense à Rimbaud, je pense à Léo Ferré, là, tout de suite. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette poésie?
Ah, mais du coup, Ferré, je pense, un très beau travail de lecteur, quand il a fait, mis en musique Rimbaud,
Aragon,
etc., ouais. Aragon, etc., il savait lire un peu le texte, et ça, on le sent à sa mise en musique. Et je pense qu'il a été déterminant pour beaucoup de gens, et il a permis à des gens qui ne seraient peut-être pas allés là, d'écouter de la poésie. Moi, j'étais.
Et de saisir aussi sa portée politique.
Bien entendu. Et de toute façon, la poésie, c'est politique, dans la mesure où c'est la subversion de la langue. Donc, ouais. Donc quand on subvertit la langue même, on est dans le contraire de la langue de bois.
Et dans le contraire de la pureté,
voilà.
Précisément.
Et de la pureté.
Quand est-ce que vous avez commencé à en écrire, vous, de la poésie?
Bon, alors j'ai commencé à 10 ans à écrire des très mauvais poèmes, à 6 ans. C'était très nul, mais c'était pour ma maman. Moi aussi, j'ai une maman à qui j'écrivais des poèmes. Et puis, bon, j'ai renoncé parce que je me disais, c'est nul, de toute façon. Et puis, la littérature française est terriblement intimidante. Donc, j'ai commencé par écrire des petites chansons, mais aussi j'ai commencé à écrire des romans parce que c'était moins intimidant. La poésie, pour moi, c'était le lieu le plus... le sacré, en fait.
C'est la question que j'allais vous poser. D'où viennent les mots de poésie, quand vous les écrivez aujourd'hui?
Alors, je pense que c'est un état un peu particulier. Il y a une affaire d'état, si j'ose dire. dans tous les sens. Et oui, parce que il y a bien sûr tout le travail qu'on a fait, à savoir qu'on doit surtout dégager tout ce qui serait du cliché, de la parole attendue. Donc il faut casser le langage, il y a un fracas du langage, et en même temps, il faut que ça parle. Donc c'est cette espèce d'entre-deux qu'il faut soutenir, quoi.
C'est beau. D'où viennent les mots? Cette question, vous la posez dans votre dernier recueil qui s'appelle donc aujourd'hui Journal au bord. Et vous écrivez que les mots viennent du seul désir de dire le monde qui n'existe pas pour qu'il s'en fente.
Voilà.
Sapho, au fond, je me suis demandé que peut un mot. Quel est son pouvoir?
Pour moi, les mots produisent le monde. Ils produisent le monde. Et justement, nous, en faisant ce que nous faisons, quand vous invitez des gens, justement, ceux que vous invitez, quand nous parlons d'une certaine façon, nous produisons un monde, un contre-monde, parce que là, le monde qu'on nous produit dans les médias, etc., en ce moment, il est quand même terrifiant, il est triste et terrifiant. Et ça attriste le monde aussi, ça. Et moi, j'ai envie de dire que le monde est joyeux. Il y a de la joie, comme dirait notre ami Charles Trenet. Il y a de la joie qu'il ne faut pas négliger, et dans tous les... Et de toutes les façons, c'est pas parce que... même, bien sûr, je veux dire que j'ai vu des gens dans des situations terribles, comme à Gaza, et nous avons ri avec ces gens. Nous avons ri. Et c'est important, cette idée qu'il est possible de rire dans, en toutes circonstances, et que ce qu'il faut
faire advenir ce
voilà,
rire.
Voilà, oui, voilà, et le cultiver.
Celle qui est tout en joie dans cette émission, évidemment, vous la connaissez, Sappho, c'est la culture et son actualité. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 2 février?
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est d'abord des rencontres. Le Scribe, accroupi, chef-d'œuvre de l'Égypte ancienne, sera visible dès aujourd'hui et pendant 11 mois au Louvre-Lens, dans le cadre de la grande expo Champollion et les hiéroglyphes. Vieux de 4500 ans, prêté par le Louvre Paris, cette statue de calcaire, d'albâtre et de cristal de roche représente un lettré de l'époque des pharaons, assis en tailleur, papyrus sur les genoux et les yeux soulignés de colle. C'est le président Macron en personne qui accueillera la statue au musée dans la journée en compagnie d'un groupe de collégiens Imhotep.
Hi, I'm Jim Bidgood. At age 17, I came to New York.
À corps perdu, le réalisateur et photographe underground, icône du mouvement queer, James Bidgood, est mort lundi. Il avait 88 ans, auteur du film culte Pink Narcissus. Il avait révolutionné la représentation des corps masculins dans les années 70 et façonné une esthétique du désir homosexuel tout en couleurs écarlates, références antiques et poses suggestives, propulsant l'érotisme gay au rang de pop culture. James Bidgood avait influencé toute une génération d'artistes, de David LaChapelle à Pierre et Gilles, en passant par Greg Araki. Notre invité d'hier, Laura Felpin, en rêvait. Chalon l'a fait, la ville de Chalon-en-Champagne accueille jusqu'à vendredi la troisième édition des 400 coups, un festival de cirque contemporain où se mêlent performances, acrobaties, créations. Au programme des festivités, trois soirées de spectacle à mi-chemin du théâtre et de l'art circassien, et notamment ce soir, la compagnie Lonely Circus qui nous plonge au cœur d'une drôle d'enquête entre Paris et Berlin sur les traces d'un intrigant clown blanc pour les petits et pour les grands.
C'est ça la littérature. On sort un peu du quotidien pour pouvoir illuminer celui des autres.
Et enfin, l'écrivain et académicien Dany Laferrière entre officiellement au musée Grévin. Aujourd'hui, sa statue de cire, réalisée par le sculpteur Klaus Welt, la représente assis, un livre de Borges à la main. Elle va rejoindre celle rare d'autres écrivains, dont Jean d'Ormesson et Bernard Pivot, institution incontournable du boulevard Montmartre à Paris. Le musée Grévin s'apprête à célébrer cette année ses 140 printemps. Dany Laferrière, lui, fera paraître demain son nouveau roman aux éditions Zulma. Allez là. Et la poétesse, chanteuse, musicienne, Sappho, invitée de Boomerang ce matin pour évoquer peut-être son dernier album, Jam, Jalousie, Amour, Mort, notamment écrit en hommage à votre compagnon qui s'est éteint en octobre. En quoi faire de la musique, c'est peut-être une manière de répondre à la mort, toujours, Sappho?
D'abord, je crois que ce disque, il l'a entendu en train de se faire. Et il le voulait tellement, il le voulait presque plus que moi, je pense. Et donc, je me suis dit il m'a dit, oui, tu m'as jamais dédicacé un disque. Je dis, mais je parle que de toi dans mes disques. Et il me dit, non, mais jamais formellement. Je lui dis, je te promets le prochain. Et ça s'est fait. Et bon, il l'aura su quand même qu'il allait se faire. Et c'est effectivement, le disque parle beaucoup de cette chose autour, la mort possible. On sait bien, on est tous condamnés à mort, hein. C'est une horreur, une tragédie.
Mais c'est un scandale.
Oui. C'est un scandale, n'est-ce pas? Alors qu'on peut être contre la peine de mort, mais on est tous condamnés. Bon, bref, peu importe. Et je m'étais dit, à ce moment-là, qu'il fallait vivre les choses autrement et j'avais écrit des chansons pour ça aussi. J'en parle.
Aujourd'hui, plus la perte, mais le mot convoque les morts, les revoilà vivants sur la page. C'est ce que vous écrivez, Sappho, dans ce poème intitulé Marcel. Dans quelle mesure écrire, c'est toujours ressusciter les disparus.
C'est très important. Je pense que la seule chose contre la mort, je pense, notre seul possible contre la mort, c'est le souvenir et la parole. Et c'est vrai que la parole, bon, quand on pense à ces grands auteurs comme Molière ou des gens comme ça, qui quand on entend leurs pièces, qu'on se dit que ça aurait pu être écrit avant-hier. Quoi.
C'est intéressant, par quel fantôme vous sentez-vous entouré? Avec quel fantôme est-ce que vous vivez?
Ils sont nombreux, alors c'est un peu compliqué. Mais moi, je pense que toute la littérature française est autour de moi. Et pas que la littérature anglo-saxonne aussi.
Vous savez, vous me voyez venir de toute
Virginia
façon.
Woolf. Allez, dites-moi tout.
Bah, je pense à cette chanson qui s'appelle Amour fantôme, que j'aime tant.
Oui.
Les chansons, ça faut, les chansons du passé. Quels fantômes est-ce qu'elles sont pour vous? Les vôtres aussi?
Alors, ce sont des fétiches comme ça, les chansons du passé.
Elles vous reviennent comme des rengaines.
Oui, c'est un fétiche qu'on a, qui correspond à un moment et qui présentifie quelque chose qu'on avait oublié. Bref, il y a des tas de façons d'être assailli par les chansons.
Ça vous émeut à chaque fois quand vous les entendez?
Ah oui, oui. Il y a des chansons qui vous font pleurer. Oui, oui.
On va peut-être pas pleurer, mais on va les ressusciter quand même. Ce passé musical Sappho, en quelques titres, c'est une célébration de la poésie.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons, d'argent où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons.
Ce sont les mots de Léo Ferré en arabe marocain. C'est si beau, les mots d'Aragon aussi dans le sillage du même Léo Ferré.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers suivent.
Puis moi j'aime aussi cet hommage au début des années 80 à une certaine Janis Joplin. Quelles images vous reviennent à l'esprit, là, tout de suite?
Non, mais Janis Joplin était immense, immense. Elle avait cette espèce de voix un peu rauque qui traînait tous les ruisseaux de New York, les rues. C'était fou, et puis abandon. Oui.
Quelle source d'inspiration musicale, mais scénique aussi, est-ce qu'elle a été pour vous, Janis Joplin?
Énorme, immense, et puis bah, oui, parce que c'est cet abandon, quoi, qu'elle avait. Mais pas que, il y avait autour d'elle, donc les Doors, tous ces gens-là, Jim Morrison et tout, cette façon qu'ils avaient de s'abandonner comme ça, et avec une espèce de voix un peu qui est un peu traînante, pas tout à fait juste, mais toujours juste, c'est ça, c'était très beau.
À quoi on s'abandonne quand on chante?
On s'abandonne à l'inconnu, à quelque chose qui... à un inconnu ravissant, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que votre musique, Sappho, elle doit autant à Janis Joplin qu'à Oum Kalthoum, à Barbara, à Léo Ferré. Dans quel environnement musical est-ce que vous avez baigné, vous? Mais
j'ai toutes ces gens dont vous parlez, parce que, en fin de compte, on avait la radio Maroc qui nous envoyait toute la musique qu'on écoutait à Paris, en fait, et bien sûr. Donc les Anglo-Saxons, les Français, et il y avait dans les radios crachotantes du Oum Kalthoum, mais dans les souks qui traînaient partout. On était environnés par Fairouz, Oum Kalthoum.
Ça, c'est la musique, mais la poésie. Quelle place avait-elle la poésie dans votre famille?
Dans ma famille, oui. Mon père était un clown. Et tous les matins, il se rasait en disant « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont le pur sanglot. » Du Lamartine, du machin. Et donc la poésie était là de toute façon.
Toutes les poésies.
Ah oui, vraiment. Enfin, il y avait... de toute façon, la poésie, c'est quand on ouvre une porte dans la poésie, on franchit toutes les autres. Il suffit d'une porte ouverte et puis après, et qu'on a une émotion, après on a envie d'aller.
Quand s'est ouverte la porte de Sappho, la grande poétesse grecque de l'île de Lesbos à qui votre nom de scène fait référence, quand l'avez-vous ouverte cette porte-là?
Alors, l'histoire de Sappho, c'est que, bon, je sais que c'est un gag, alors quelquefois c'est une déception pour certaines personnes.
Ça reste une poétesse.
Ouais. Mais c'est une poète, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en première année de fac, j'avais fait plein d'exposés pour me faire bien voir et rien faire après, c'était ma technique.
Excellente technique s'il en est, vous savez qu'on a beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, Sappho, merci pour le conseil.
Et alors, ça marchait pas toujours. Et donc j'avais les étudiants m'écoutaient pas. Et donc il y avait et j'avais fait un truc sur Rimbaud, sur l'ennui, enfin des choses très romantiques, très romanesques. J'avais eu plein d'amis garçons qui me reprochaient de faire fuir les filles. Alors j'en draguais pour eux, mais ça marchait pas du tout. Mais du coup ils m'ont appelé Sappho, comme je savais que c'était une femme de lettres, je l'ai gardé ce nom que je trouvais très beau.
Pourtant au début de votre carrière vous vous faisiez appeler Bergamote, ce qui ne raconte pas tout à fait la même histoire.
Non, alors c'était une imposture totale. C'était parce que j'avais fait un pari avec Hervé Christiani qui chantait Il est libre Max, il était inconnu au bataillon avec ça, de me faire passer pour une Québécoise. J'adorais imiter l'accent québécois, j'adorais Gilles Vigneault, etc. Et donc, effectivement, et ça s'est passé au-delà de mes espérances. J'ai dû être Québécoise pendant 6 mois.
J'aimerais qu'on parle d'un autre poète, Shakespeare, dont vous reprenez les vers écrits pour Desdémone dans Othello sur un titre qui s'appelle Willow. Vous êtes sur France Inter avec Sappho. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
The poor soul sat sighing by a sycamore tree. Sing all the green willow. Her hand on her bosom, her head on her knees. Sing willow, willow, willow.
On est quelque part entre la grande prêtresse, Hélène Cixous, et l'oiseau de paradis. L'œil à la fois vif et langoureux, le cheveu imprévisible, le sourire dévorant. Elle est l'hôtesse mystérieuse qui vous en met plein les yeux et qui vous enchante d'un simple battement de cils sous son chapeau et sous ses lunettes noires qu'elle met et qu'elle démet. Ah, elle a l'élégance des parisiennes d'hier, la poétesse et musicienne Sappho, invitée de Boomerang. On vient d'écouter Willow, un titre en anglais extrait de votre nouveau disque Jam, sur lequel vous chantez aussi bien effectivement en anglais qu'en français et en arabe. Parlez plusieurs langues. Quelle richesse est-ce que c'est pour la musicienne, pour la poétesse, pour l'artiste que vous êtes?
On parlait de ça, on se disait avec des amis par exemple que le français était une langue extrêmement difficile à chanter parce qu'il y a des U, des E, des choses comme ça, la bouche est fermée. Et lorsque vous chantez la même chanson en anglais, en arabe et en français, et que vous voyez sur le spectre sonore sur l'ordinateur, en arabe, en anglais, c'est ultra large comme ça, et en français, il y a des petites modulations.
Mais alors, en quoi devient-on quelqu'un d'autre quand on chante dans une autre langue ?
Et alors, c'est ça, de toute façon, De toute façon, c'est toujours la même histoire. C'est la chose de se laisser surprendre. Moi, j'adore ça. Et tout d'un coup, on devient un peu espagnol, ou on devient un peu arabe, ou on devient quelqu'un d'autre. Et c'est ce jeu est très intéressant, en fait, parce que...
On parlait toutes les langues dans le Maroc de votre enfance?
On parlait beaucoup, oui. On aimait jouer avec les langues, on aimait ça, c'est vrai. Et puis, on aimait la musique, en fait.
Quel Maroc avez-vous connu?
Moi, j'ai connu un Maroc incroyable où il y avait des qui n'existe peut-être plus, mais où les communautés dites juives, marocaines, enfin bon, musulmanes et chrétiennes vivaient, dormaient ensemble, mangeaient ensemble. Enfin, il y avait une espèce de comme ça de d'interférence permanente et très douce, quoi, très harmonieuse, très harmonieuse.
Qu'est-ce qui vous a décidé de quitter ce pays pour rejoindre Paris?
En fait, d'abord, mes parents ont voulu, on était obligés de partir pour nos études, parce qu'il n'y avait pas d'études supérieures, il y avait la propédeutique à l'époque, après ça, l'année d'après, il n'y avait plus. Et donc, il fallait aller pour l'université, mes parents voulaient qu'on poursuive, quoi. Donc, ils sont venus pour nous. Et à Lyon, après le Maroc en octobre, c'est très bizarre. C'est un froid un peu étrange. Et puis moi, je m'entendais pas trop bien avec ma maman. Ça, je ruais dans les brancards et on m'a mis dans un pensionnat en Suisse alors que j'étais en fac. C'était un truc très cool. Mais c'était rassurant pour mes parents. Et puis, c'était l'année 68. Et là, j'entends parler de la contestation. Je me dis, waouh, la contestation. Ça me branche. Et je vais, en août 68 à Paris.
Et qu'est-ce que vous avez vu là?
Et là, je vois dans les rues des gens qui se parlent, alors qu'ils se draguent pas, c'est juste pour se parler, ça parle.
Oui, c'est intéressant que vous parliez de mots, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui se jouait en fait culturellement, artistiquement dans ces années-là?
Alors moi, je comprenais rien sous les pavés la plage, tout ça, les trucs, je comprenais rien. Je me disais, qu'est-ce que ça veut dire ça, sous les pavés la plage? Je comprenais rien. Puis politiquement, j'étais nul, je savais pas de quoi ça parlait. Mais l'ambiance, cette atmosphère, où les gens échangeaient des choses comme ça, des idées, voulaient changer le monde, avaient une croyance folle que c'était possible, qu'ils allaient, il y avait un espoir fou. Quoi.
Puis vous avez connu ces cercles littéraires et artistiques les plus en vogue de la capitale à l'époque, en compagnie de François Sagan,
oui,
notamment.
Oui. Alors j'ai croisé ces gens, mais je les ai pas tellement fréquente, j'ai croisé. Hein. J'étais trop petite à ce moment-là.
Vous étiez dans le croisement, vous.
non, mais bah, en revanche, j'étais pleine de cette littérature. De toute façon, au Maroc, j'étudiais en français, donc il y avait Duras, il y avait plein de... Tout ça était là, quoi. Donc, Et à Paris, j'avais l'impression de connaître Paris, parce que si on lit Balzac, on connaît Paris. Les rues sont...
Mais là, il y avait des combats qui se jouaient, et il y avait notamment la liberté des femmes. Cette décennie a été absolument déterminante.
Absolument.
Y compris dans votre pensée à vous.
Ah, mais de toute façon, moi, j'étais féministe dès le départ, puisque en tant que petite fille, ça disait, quand ça parlait à table, c'était moins intéressant qu'un petit garçon. Alors, j'ai pris un micro pour avoir de parler devant une table gigantesque.
Oui. Et c'est toujours présent, c'est ça qui est intéressant dans votre poésie, dans votre musique, la question de la liberté des femmes. Vous l'évoquez dans un titre de jam qui s'appelle Lala Emilia, fous-moi la pelle barbu.
Oui.
La liberté d'une femme, ça tient à quoi pour vous, Sappho?
En l'occurrence, dans cette chanson, j'ai essayé de dire la liberté des femmes dans une sorte de jouissance à être une femme. Et au lieu que ce soit une punition, c'était une jouissance. Je suis libre et je suis en vie. Et je le déclare. Et mon féminisme à moi, c'était pas de demander la parole, c'était de la prendre. Donc, c'est une autre affaire.
Vous avez eu du mal à la prendre?
Bah, au début, c'était pas gagné. Il fallait y aller, quoi. Et donc, en plus, on est avec tout le doute qu'on vous mettait, quoi. C'est-à-dire que, en plus, moi, j'avais rencontré un groupe d'intello infernaux, machistes, qui vous disaient froidement que les femmes, ça pouvait pas être philosophes. Elles étaient pas faites pour ça. Bon, littérature, oui, mais la philosophie.
Alors, comment leur avez-vous répondu?
J'ai résisté, j'étais toute seule. Il y avait d'autres femmes qui étaient là complètement, tellement, en admiration devant les intello, qu'elles disaient oui. Et moi, j'étais la seule à dire, mais non, non, non.
Diriez-vous qu'écrire de la chanson, écrire des poèmes, c'est une façon toujours de leur répondre encore aujourd'hui?
Je pense que Je pense bien sûr que le fait d'écrire, c'était un acte qui continue, oui, de mais j'ai passé le temps de la preuve. Maintenant, c'est plus la preuve ou l'épreuve. Non, c'est du plaisir. On est dans le plaisir pour l'instant.
C'est une chanson qui parle de femmes, de désirs et de départs que vous avez choisi de reprendre pour nous ce matin, Les Passantes de Brassens, accompagnées au piano par Étienne Champollion qui s'est glissé dans notre studio.
Les Passantes, c'est l'éphémère.
On vous écoute.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui presque s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. La compagne de voyage dont les yeux charmants paysages font paraître court le chemin, qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré sa main. Celles qui sont déjà prises et qui vivent en des heures grises près d'un être trop différent. Vous en inutile folie, laissez voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors au soir de lassitude, tout en pleurant sa solitude, les fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Le frisson, Sappho qui reprend Brassens dans ce studio en direct, Étienne Champollion au piano, merci aussi à Pierre-Yves de Rolin et Thomas Langlin à la technique. Je rappelle merci que votre nouvel album Jam vient de paraître, Sappho, vous serez bientôt au Palais des Congrès du Mans, le 12 février notamment. Et je rappelle aussi, je suis assez ému, que les poèmes de votre dernier recueil aujourd'hui, Journal au bord, sont publiés aux très belles éditions Bruno Doucet.